nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le libre éducatif. Notre invité, Alexis Kaufmann, que je vais laisser se présenter après. On va juste vérifier son micro. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors, c'est un grand plaisir d'avoir. Avant que j'oublie, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à notre conversation. Pour cela, vous pouvez appeler en direct la radio au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou venir sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et vous pourrez réagir. Et si vous avez des questions ou des remarques, j'essaierai de les relayer auprès d'Alexis. Alors, Alexis, première question très simple. Je préfère que tu laisses te présenter, voir un petit peu comment tu vas présenter ton parcours. Donc, qui es-tu, Alexis Kaufmann?
Bonjour. Donc, tu as intitulé le passage me concernant Échange avec Alexis Kaufmann sur le libre éducatif. Donc, je précise que je ne représente pas le ministère. Je ne suis pas mandaté par le ministère pour prêcher la bonne parole, entre guillemets. C'est un témoignage, même si évidemment, quand on est dans l'administration centrale, voilà, notre parole est publique. Si j'ai bien compris que l'émission, il me semble qu'elle soit en direct, puis ensuite elle sera certainement, elle fait l'objet de podcast, donc elle sera quelque part sur les internets. Mais voilà, donc c'est un témoignage personnel. Alors maintenant, qui suis-je ? Je suis professeur de mathématiques, voilà, depuis 25 ans, dans le secondaire, en France et à l'étranger. J'ai également enseigné les deux nouveaux enseignements qui viennent de la réforme du lycée, mais juste une année, la SNT et la NSI, ce sont des acronymes, donc sciences numériques et technologies en seconde, et l'enseignement de spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, qu'on appelle parfois l'option informatique, en première et en terminale. Je les cite parce que en SNT, dans les programmes, on a par exemple contribué à OpenStreetMap. C'est assez nouveau. Et puis dans le programme de la NSI, on travaillera sur un système d'exploitation libre. Voilà des choses qu'on ne voyait pas, écrites telles quelles dans les programmes par le passé. Donc enseignant et également à l'initiative de Framasoft, plus de 20 ans, on a fêté les 20 ans du nom de dépôt du premier nom de dépôt du premier nom de domaine Framasoft.net il y a un an. À l'initiative de Framasoft, quand j'étais professeur de collège à Bobigny, je me suis intéressé jeune prof, je voyais l'informatique arriver, ça m'a intéressé. J'ai dit tiens, il y a des logiciels qui peuvent être intéressants. Tiens, il y a les gratuits. Il y a des gratuits, mais aussi libres. Pourquoi on fait cette distinction, etc., etc. Je me suis mis à les référencer, ça a intéressé d'autres, ça a fait un petit effet boule de neige. On a créé une association qui s'est appelée Framasoft quelques années plus tard, et Framasoft, je pense que certains de vos auditrices et vos auditeurs connaissent. C'est une belle aventure, ça a démarré sur un annuaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement d'utilisateurs, non pas un mouvement d'informaticiens, c'est pas un mouvement de développeurs, et qui est issu du monde éducatif. Ça fait, Framasoft a beaucoup évolué. Moi, j'en étais président pendant plus de 10 ans, et j'en fais plus partie d'ailleurs, mais on est passé du logiciel libre à la culture libre. Aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement émancipateur derrière le numérique, c'est un choix de société, etc., etc. Enfin, Framasoft, en tout cas, est connu dans le monde francophone sur ces questions-là. Et puis, c'est depuis un an, je viens de souffler ma première bougie, c'est pour ça que tu m'as invité peut-être aussi. Je suis ravi, c'est la 150e, ça, Oli. Donc depuis un an, je suis au ministère de l'Éducation nationale dans une structure qui s'appelle la Direction du numérique pour l'éducation, la DNE, en tant que chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique. À la transformation numérique de la direction numérique pour l'éducation. Je sais, ça fait beaucoup, c'est très très long. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, j'en sais rien, c'est les auditeurs qui diront, mais c'est que j'arrive après une consultation alors ça s'est appelé les états généraux du numérique.
Alexis, on va y revenir après.
D'accord. Je ne savais pas si c'était une présentation courte ou longue.
Courte.
D'accord.
Mais je te connais. Et je vais juste rappeler que donc Framasoft, c'est framasoft.org, et on a consacré au moins une émission à Framasoft sur libreavoue.org, donc vous retrouverez le podcast. Mais justement, comment tu es arrivé à ce poste m'intéresse, mais c'est dans une deuxième partie. D'abord, j'aimerais, parce qu'on a intitulé ça un petit peu, on a parlé de logiciels libres et ressources libres dans l'éducation, et puis en résumé court, tu m'avais proposé le libre éducatif. Alors peut-être que le premier sujet, le premier grand thème, ça serait, c'est quoi le libre éducatif? Et finalement, en quoi est-ce important de recourir à, et voire aussi de produire, des logiciels libres et des ressources libres dans le domaine de l'éducation? Avant de parler vraiment de ce que tu fais, l'importance du libre éducatif.
D'accord. Comment je peux aborder ça? Je vais prendre un tout petit peu de hauteur et on va parler d'abord rapidement du numérique éducatif. À la fin du mois d'août, j'étais à une sorte d'université d'été du numérique éducatif, ça s'appelle Ludovia, et dont la thématique était éthique et sobriété numérique. Et mon directeur, Audran Le Baron, est intervenu et il a proposé 4 leviers d'action en faveur de la sobriété numérique. Il y avait rationaliser les équipements. Ça, je pense que ça parlera aux auditeurs, ça parlera aussi à ceux qui s'intéressent au logiciel libre. Rationaliser donc les équipements, de l'éco-conception dans les services numériques. Oui. Il y avait aussi mutualiser l'infra. Et puis il y avait
l'infrastructure.
L'infrastructure. Et puis utiliser le numérique éducatif lorsque c'est réellement nécessaire et utile. Et ça c'est nouveau comme discours. C'est une posture. Comment dire, modeste et raisonné et raisonnable.
C'est-à-dire que c'est pas la posture.
On est loin du numérique triomphant d'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était par essence, c'était moderne, c'était innovant en soi.
On distribuait des iPads à les collégiens, par exemple, et c'était l'avenir, ça allait marcher par magie, sans formation, tout ça, etc.
Voilà.
Là, il y a un changement.
Donc, ça va pas de soi. Et donc, nous, au ministère, on se pose la question, tous ensemble, pourquoi le numérique éducatif? Ça me paraît, c'est bien de démarrer comme ça, mais c'est vrai qu'on est à une période où on se pose cette question-là, notamment parce qu'on parle de transition numérique, mais on parle aussi de transition écologique. Donc une réponse, parmi les réponses, si tu veux, évidemment, on est dans un monde numérique, et donc on doit éduquer à la citoyenneté numérique nos élèves, nos enfants. Ça, c'est une évidence. Pas forcément, il y a l'angle, attention à vos données personnelles, attention les réseaux sociaux, faut pas en abuser, attention...
C'est la partie danger,
cyberharcèlement.
Mais il y a la partie aussi opportunité.
Exactement, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a quand même éducation à la citoyenneté numérique. Il y a aussi un numérique qui peut rendre efficace et résilient. On l'a vu en situation de crise, mais aujourd'hui on peut aussi la poursuivre avec, par exemple, lorsque des élèves sont, on appelle, empêchés, donc ils restent à la maison ou ils restent dans une structure hospitalière, etc. Donc là, il y a aussi tout ce que ça peut apporter à la pédagogie. Moi, j'ai 25 ans de carrière derrière moi. J'ai expérimenté toutes sortes d'outils numériques et de dispositifs. On a été élève avant l'Internet. Le cours de maths, quand on rentrait chez nous, on avait juste notre cahier pour essayer de comprendre. Si on n'avait pas trop bien compris sur le coup, c'était difficile. Et puis, on pouvait même pas appeler le copain parce que c'était le téléphone avec fil, on dérangeait toute la famille, etc. Donc, on était un petit peu tout seul. De la même manière qu'un... Alors qu'évidemment, aujourd'hui, on peut réécouter son prof si jamais il nous fournit des ressources, mais on peut écouter plein d'autres profs dans plein de langues qui vont nous redire la notion. On peut demander aux copains extrêmement rapidement on peut prendre des photos, des machins. On a un accès à la connaissance qui est absolument incroyable. Mais ça, c'est vrai, évidemment, parce que nous, on a connu l'avant. Pareil, quand t'es enseignant et que tu prépares ton cours, tu le prépares plus tout seul. Avant, on préparait tout seul. Là, vraiment, on se met en relation sur des groupes, des machins. On communique, on collabore, on partage, c'est extraordinaire. Donc, et puis, en classe, avec les élèves, le numérique apporte... On a des classes qui sont hétérogènes, on peut effectivement différencier, faire des parcours personnalisés, identifier les lacunes pour certains, pousser plus haut, entre guillemets, les bons élèves. Moi, j'ai le temps du confinement... ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire être dans une relation. La rétroaction en français, tu as raison de me corriger. Avec l'élève, on peut vraiment être dans un dialogue et ce qu'on peut pas quand on a une heure de cours, 30 élèves, on n'a pas le temps vraiment de consacrer aux uns. Enfin, on a le temps, mais c'est plus difficile. Le numérique aussi, dans l'inclusion, les lecteurs pour les 10, etc. Il y a des choses aussi à ce niveau-là.
Les quoi, les 10
Oui, tu sais, les 10 calculi, c'est-à-dire, il y a des élèves qui avant c'était plus difficile pour eux de suivre le cours parce que il y avait un professeur qui fait. On a différents canaux, différents supports qui peuvent aider. Le numérique est inclusif, à mon avis, apporte quelque chose à l'inclusion et à l'accessibilité.
Alors, qu'est-ce qu'apporte en plus?
Dernière chose, la collaboration qui pour moi est déjà. C'est vraiment le fait de travailler ensemble. Entre pairs et la coopération, être créatif ensemble, c'est ça le numérique est extraordinaire pour ça. C'est pas l'unique, c'est pas l'alpha et l'oméga mais voilà, ça apporte un certain nombre de choses, ça a quelques réponses si tu veux. Donc si ceci posé, en admettant donc que le numérique éducatif, parce que mine de rien, donc je dis, il y a le numérique triomphant, c'est plus le cas, mais on a un effet contraire. Je veux dire, on a aussi des mouvements aujourd'hui, c'est de décroissance radicale, hein, c'est-à-dire vous avez jeté l'argent par les fenêtres avec tous vos plans, etc. On n'en veut plus de numérique. Donc voilà, je donne quelques éléments qui me semblent apporter quelque chose à l'enseignement. À l'intérieur du numérique éducatif, moi, je suis convaincu que le libre éducatif apporte quelque chose. Alors maintenant, pourquoi libre éducatif ? J'aime bien l'expression. D'abord parce que je t'ai cité mon titre, il est un peu long. Logiciel et ressources éducatives libres. Donc c'est une manière de les condenser. Et éducatif, c'est un adjectif en fait qui a pour but l'éducation. Donc le libre qui a pour but l'éducation. Alors non seulement je te parle logiciel libre, ressources éducatives libres, mais j'en rajouterai donc LL, REL, REL pour ressources éducatives. J'en rajouterai même PEL. Pratique éducative libre. Si tu veux, je peux développer aussi. Mais je mets tout ça ensemble, que je regroupe dans le libre éducatif. Alors après, tu vas me dire quelle est la définition. J'imagine que c'est la 150e, j'imagine que vous avez souvent défini ou redéfini le logiciel libre.
Ce qui est bien, c'est que tu fais les questions et les réponses. Je te laisse effectivement.
Disons que.
Non, mais c'est des. Que ce soit les deux logiciels, ressources ou des pratiques, elles doivent être librement réutilisables,
voilà, en fait,
sans restriction, y compris commerciale. Donc c'est les licences logiciels libres et un certain nombre de licences Creative Commons, etc.
Je ne parlerai même pas de licence si tu es dans un premier temps. C'est vraiment c'est les libertés, la liberté d'accès, d'usage, d'étude, de modification, adaptation, amélioration et partage. Et pourquoi je les cite comme ça ? Parce que si jamais on les pense, si on pense, voilà, accès, usage, études, modification, partage, si on le pense dans l'éducation, et si on pense que la ressource, c'est le savoir, les connaissances, c'est presque naturel, si tu veux.
Bah, pour des profs, dont l'une des forces, c'est en fait leur pratique et de partager, en fait.
Voilà.
Oui, et de les améliorer. Donc c'est une des forces.
Voilà, pour moi, on est dans l'ordre de quelque chose d'assez naturel. Alors, on peut discuter de pourquoi ça ne l'est pas forcément, et pourquoi, entre guillemets, aujourd'hui, le système, alors entre plein de guillemets, fait apparaître ça presque ça comme une bizarrerie, voire comme une alternative. Mais il n'empêche que, par exemple, moi je travaille aussi à accompagner les communautés d'enseignants. Les communautés d'enseignants qui veulent partager, c'est beaucoup plus facile de le faire sur des systèmes ouverts que fermés. Hein. C'est, voilà, là encore, c'est quelque chose d'assez, qui me semble assez, assez naturel. Donc voilà, donc... Audran Le Baron, je me souviens
qui est le directeur du numérique éducatif.
Voilà, il avait dit que le logiciel libre est à 200% compatible avec les grandes valeurs qui portent l'éducation. Et voilà, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui. Juste un dernier mot, je sais que je suis très bavard. Je pense que donc, l'éducation a besoin de logiciels libres. Je pense aussi que le logiciel libre a besoin d'éducation. C'est-à-dire que là, tu as commencé à parler de licence, tu vois, voilà, il y a beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi l'un des objectifs de cette émission et de l'April, hein, de faire connaître ces notions, de faire comprendre. C'est pas simple. Déjà, comprendre ce que c'est qu'un logiciel libre par rapport à nous. J'ai passé toute ma vie à ça et j'ai pas forcément toujours bien réussi. Hein. Pareil pour les communs numériques, etc. Il y a de la sensibilisation. De la confrontation aussi, hein, parce que on n'est pas forcément d'accord, mais c'est important faut faire comprendre ces notions, parce qu'elles sont, à mon avis, une fois qu'on les a comprises, elles sont susceptibles aussi elles sont engageantes.
D'accord, ok.
c'est
l'important, c'est un échange, etc., mais il faut quand même laisser du tout à ton
Absolument.
Retour d'expérience, parce que ce qui me paraissait important, et je rappelle qu'on a quand même, c'est aussi toi qui as proposé effectivement ce point sur l'éducatif, de rappeler ce point introductif qui m'a paru très complet et très clair. On va aborder un petit peu le cœur de l'échange. Il y a un an, tu prends ce poste, alors je vais le répéter quand même, hein. Chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Et avant, comme tu l'as dit, tu as été notamment créateur de Framasoft. Alors, je vais faire une toute petite introduction qui ne va pas forcément appeler un commentaire direct de ta part, mais une question qui est en lien. Donc tu as rejoint le ministère de l'Éducation nationale il y a un an. Le ministère de l'Éducation nationale est plutôt largement connu pour son asservissement aux solutions privatrices de Microsoft, Google, Amazon, etc. Alors je parle bien sûr de l'institution, hein, pas du personnel de l'institution. Alors sans vouloir refaire toute l'historique qui serait assez longue, par exemple, dernière étape de cet asservissement, l'offre de gratuité avec les guillemets, je mets des guillemets, pour Office 365 pour les élèves et le personnel enseignant. Suite à ça, le député MoDem Philippe Latombe, dans une question écrite au ministre de l'Éducation nationale, parle d'une administration qui donne l'impression d'être vendue à Microsoft. Alors, on va laisser le ministre répondre, je ne vais pas te poser la question là-dessus. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que donc, tu as été fondateur de Framasoft, tu en as même été salarié. Framasoft a été très critique envers le ministère, comme l'April, comme plein de gens. Et donc, j'ai envie de te demander ce qui t'a motivé à prendre ce poste ou à candidater à ce poste. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'est passé, si tu as répondu à un appel, une offre d'emploi, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans cette structure, vraiment à ce poste-là?
Il y a quelqu'un qui m'a pointé un article que j'avais écrit sur le blog de Framasoft, sur le Framablog, un article de 2008, qui a pour titre mon ministère me désespère ou le fabuleux don destin du logiciel libre à l'école française, en 2008. Donc, que j'avais écrit en tant que résident de Framasoft. Donc, ce dont tu parles, j'en ai conscience, je l'ai vécu. Maintenant, voilà. Il y a eu une consultation, il y a eu beaucoup de consultations internes au ministère selon différentes mandatures. Il y a eu, au sortir du premier confinement, parce qu'il y avait eu quelques... Tout ne s'était pas formidablement bien passé. Et on a demandé, voilà, on a interrogé. Et il y a eu, parmi ceux qui sont intervenus, il y avait des témoignages, des enseignants qui souhaitaient davantage favoriser le logiciel libre et les ressources éducatives libres. Ça a paru dans le bilan, il y a eu 40 propositions qui sont sorties des états généraux numériques, et l'une des propositions, c'était telle quelle, explicitement favoriser l'usage des logiciels et les ressources éducatives. Et dans le cas de la mise en action de ces propositions, on a créé un poste, enfin un demi-poste en fait, puisqu'il y a également la mixité, mais à la direction numérique pour l'éducation, chef de projet logiciel et ressources éducatives. Ça, c'était nouveau. Et donc, on m'a contacté pour vouloir savoir si ça m'intéressait. Moi, il se trouve que j'étais en fin de contrat, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai réfléchi et j'ai dit banco, quoi. Et chiche, j'ai envie de dire. Et c'était quelque part, c'était courageux de leur part, parce que publiquement j'avais eu des propos très très critiques, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est impatienté à Framasoft, hein, voire jusqu'à claquer la porte, moi. Et puis bon, ça l'était aussi pour moi, parce que effectivement on m'a dit on va te placardiser, ou je ne sais, ou tu vas servir d'alibi, etc., ce que j'ai entendu, hein. Il n'empêche que j'y suis allé. Et ça fait un an que j'y suis. Je ne regrette pas. Peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi. J'ai trouvé que c'est...
Donc tu as été pour donner quelque part, on pourrait dire donner sa chance au produit, en fait. C'est un peu... Non, mais c'est un terme
non,
comme
mais
ça.
Si tu veux, dans ces états généraux du numérique, non seulement il y avait cette proposition fléchée libre, mais il y avait une volonté. Alors après, on peut penser que c'est des éléments de langage, etc., mais on va être plus horizontal, plus de gouvernance partagée, voilà, des mots qui me parlaient à moi.
Et donc, d'accord.
Et donc voilà. Et franchement, effectivement, ça c'est avéré. Je trouve que, alors c'est un peu paradoxal, mais tu vois. Parce que pourquoi c'est paradoxal? Parce que moi, je suis un mâle blanc de 50 ans, hétérosexuel, etc. Et il y en a d'autres, hein, mais voilà, j'apporte un peu de diversité. Mon profil apporte de la diversité. D'ailleurs, j'ai dit, moi, je vais arriver. Voilà, moi, j'ai plein de compétences, mais en autodidacte, dans le monde associatif, voilà, parce que on a avec l'aventure Framasoft, etc. Je suis pas bardé de diplôme comme d'autres en l'administration centrale. Voilà, je vais arriver tel que je suis.
Alors, on comprend bien les motivations. Donc, tu y es arrivé donc en septembre 2021. Là, nous sommes en septembre 2022. Donc, ça fait un an que tu y es. Et je confirme, tu n'es pas dans un placard, là, en tout cas. On ne t'a pas sorti. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est un peu, ton retour. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant, par exemple? Est-ce que la situation, on va dire, du libre éducatif, notamment au ministère, correspondait à ce que tu t'attendais, ou c'était pire? Finalement, mieux que ce que tu croyais. En fait, t'es assez libre de répondre en fait à la question. Là, c'est un peu.
Franchement, j'ai été très agréablement surpris. D'abord, il y avait eu le projet Apps qui avait été lancé.
Alors, on en reparlera tout à l'heure pour préciser ce que c'est.
C'était quand même un signal tout à fait positif. J'ai été très très agréablement surpris par la connaissance du sujet de en tout cas la direction numérique quoi. C'est-à-dire, là, les gens qui comprenaient ce que c'était qu'un logiciel libre, les ressources éducatives libres, les Creative Commons, etc.
Dans tes collègues et au niveau de la direction, par exemple, notamment au niveau d'Audrin Le Baron.
Absolument.
Est-ce que le positionnement personnel d'Audrin Le Baron joue un rôle important là-dedans?
Ça, je peux pas.
Ah, tu peux pas. D'accord.
Prononcer. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai tweeté hier comme ça pour un petit clin d'œil, mais il a co-écrit un article sur les licences libres en 2003. Il a écrit un article qui est sur les licences permissives, pas permissives, MIT, GPL, Berkeley, tout ce que tu veux. Donc voilà, donc on a quelqu'un qui s'y connaît bien sur le sujet. Non, mais plus globalement, voilà. Si tu veux, je savais qu'il se passait plein de choses, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'initiatives. Alors qu'ils ne sont pas forcément étiquetés libres, stricto sensu à 100% avec toutes les bonnes licences, etc., mais qui allaient dans la direction de la collaboration, du partage, de l'échange, sans être démago, hein, vraiment, je m'attendais pas. Donc voilà, ça c'était une agréable surprise.
Avant d'entrer peut-être dans des exemples concrets, j'ai une question de périmètre, de nombre. La direction de numérique éducatif, c'est combien de personnes, à peu près? Tu as une idée?
Alors là, j'invite les auditeurs à...
D'accord. Non, mais c'est pour savoir, parce que toi, tu as un poste, effectivement, mais c'est pour savoir...
Comme on a aussi de l'animation de réseau, j'avoue D'accord. que je ne sais pas exactement okay. jusqu'où... c'est une pirouette, ça, pour
D'accord.
sortir...
D'accord, ok, bon. Bon, on regardera, mais c'était pour avoir une idée un petit peu. Alors, sinon, d'un point de vue concret...
Mais c'est l'ordre de la centaine, plusieurs centaines de personnes.
D'accord, ok. D'un point de vue concret, en un an, finalement... quelles initiatives ou quelles choses se sont passées? Alors, tu le dis, plus ou moins libre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans les... comment tu pourrais expliquer, finalement, ce que tu as vu, ce que tu as participé et où on en est aujourd'hui, un an après? On parlera des perspectives.
Je suis arrivé avec deux missions, une qui était plutôt de l'ordre de la stratégie et l'autre qui était plutôt de l'ordre de l'animation, si tu veux. Donc, la stratégie, c'était... définir une stratégie et une feuille de route spécifique au libre éducatif collectivement, c'est-à-dire monter un comité, groupe de travail, etc. Et puis de l'autre, animation de l'écosystème.
D'accord.
Voilà. Et notamment en partant de ce que font et en étant à l'écoute et en repérant en valorisant ce que font les enseignants. Je peux te donner un exemple parce que on vient de le sortir pour la rentrée, c'est la classe virtuelle. La classe virtuelle, qui est donc un outil de visioconférence mais adapté à un usage scolaire qui a été utilisé lors du confinement. Mais lorsque la crise est arrivée, l'outil qui était proposé, il était opéré par le CNED et c'était un logiciel propriétaire, ça s'appelait Blackboard et sur des serveurs Amazon. Un logiciel propriétaire Blackboard, ça signifie qu'on pouvait pas forcément l'adapter à nos besoins. On était obligé d'utiliser tel quel avec ses fonctionnalités. Et puis les serveurs Amazon posaient des problèmes évidents de protection des données personnelles. Aujourd'hui, c'est remplacé et alors évidemment on est sorti de la crise donc ça va être moins utilisé mais il peut y avoir toujours des bon, on croise les doigts enfin on n'est pas totalement sorti
plus,
mais enfin on est sorti du gros du confinement en tout cas, mais aujourd'hui c'est remplacé par le logiciel libre Big Blue Button qui est intégré à la suite Apps dont on aura peut-être l'occasion de parler.
On va en parler maintenant justement
non seulement on utilise ce logiciel libre mais on finance du développement. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait tout un retour d'expérience, professeurs, élèves, UX, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voudrez qu'on améliore. On a listé et il s'en est dégagé quelques... Voilà, il faut faire ceci. Et voilà, et c'est en route et ça a été intégré à la version 2.5. Et quand on va sur le dépôt Git de Big Blue Button, il y a un remerciement en anglais pour le ministère de l'Éducation nationale.
Attends, on va préciser parce que là, les gens, sinon, vont être perdus. Dépôt Git, machin, etc. Donc, dépôt Git, en gros, c'est un espace où, internet, site web, sur lequel il y a les codes sources en fait, de ce logiciel. Bimloton est développé, je ne sais plus si c'est par une entreprise ou une fondation, et effectivement, le ministère de l'Éducation nationale a investi beaucoup de temps et d'argent dans le développement spécifique Bimloton, et je pense qu'on aura peut-être, et j'espère, l'occasion d'en parler prochainement avec Nicolas Chonte, qu'on a invité à venir intervenir, mais qui doit demander l'autorisation à sa hiérarchie pour venir.
Non, mais c'est comme si tu veux, c'est comme si on ne se contentait pas de lire Wikipédia, mais qu'on
Non, mais justement, c'est ce que j'allais expliquer, c'est qu'il y a un fort investissement.
Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. Parce qu'en plus, là, tu as dit, je ne sais pas exactement qui y a derrière. Parce que, effectivement, dans chaque logiciel libre a sa propre gouvernance. Ça peut être une fondation, ça peut être une boîte privée, etc. Et ça, c'est nouveau aussi pour un ministère d'avoir de tels interlocuteurs, être en mode gouvernance partagée et de travailler en bonne intelligence. Parce que. Nous, on a fait remonter des besoins et donc on a développé des fonctionnalités qui répondent à nos besoins, mais ensuite c'est reversé au code et donc ça bénéficie à tous les utilisatrices et les utilisateurs de BigBlueButton à travers le monde. Ça me semble une bonne idée. C'est hébergé en France. Ah, ça, c'est mine de rien, c'est chez Scaleway, mais ça aurait pu être aussi sur nos serveurs. Bon, après, ça c'est un...
Scaleway, c'est une entreprise française hein, d'hébergement. Oui.
Voilà, et en plus, si tu veux, ça, c'est, je parle de la classe virtuelle, c'est pour un usage professeur-élève, mais on l'utilise aussi entre agents. Ça s'appelle, alors c'est tout, ça, un autre nom, ça s'appelle visio-agent, mais c'est 40 000 réunions et 200 000 participants par mois. Et ça, c'est entre agents du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est aussi ce qui sert de base à son webinaire de l'État, et là, qui est utilisé par tous les autres ministères. Donc, il y a une belle mutualisation. Ça me semble vraiment être cet projet-là me semble être vraiment un exemple type de bonne pratique, quoi.
Alors justement, l'annonce officielle a été faite le 5 septembre 2022 et là j'ai copie d'un courriel qui a été envoyé, enfin d'un message qui a été envoyé par justement Audran Le Baron et Édouard Geffray qui est le directeur général de l'enseignement scolaire pour annoncer effectivement cet outil de classe virtuelle donc basé sur le logiciel BigBlueButton sur lequel effectivement le ministère a fait des modifications très importantes. Et je vais juste lire un extrait. C'est pour répondre au mieux aux besoins des professeurs et des élèves. Une étude a été menée en 2021 auprès de plus de 1800 professeurs qui ont testé cette nouvelle solution. Les retours ont été très positifs. 92% recommandent l'usage de cet outil et 84% estiment qu'il est suffisamment intuitif pour être utilisé sans formation. Et on va en profiter pour donc parler un peu plus de apps.education.fr. Donc c'est un site web qui propose, en fait, qui, comme tu avais commencé à le dire tout à l'heure, pendant la période effectivement premier confinement, en fait, la plupart des profs et malheureusement aussi des élèves utilisaient des solutions qu'elles trouvaient sur Internet, c'est-à-dire Zoom, etc. Et donc, au ministère, il y a une équipe qui a commencé à proposer des alternatives libres. Donc, ça s'appelait Apps Education, avec de la visio, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une dizaine de services, c'est ça, qui existent sur apps.education.fr.
Oui, ou peut-être cet ordre-là, oui.
D'accord.
Oui, c'est de l'intégration.
Et c'est la montée en puissance.
C'est une plateforme qui intègre différents services numériques, à majorité libre, mais pas que, mais pas tous. Hein. Il y a d'autres services.
Sur apps.education.fr, c'est pas que le logiciel
libre. Non.
D'accord.
Mais majoritairement. C'est majoritairement. Ah. Majoritairement. Et puis la plateforme qui intègre. Et en plus, il y a aussi des systèmes. Il y a un système de blog, de liens, etc. La plateforme elle-même est libre. Mais par exemple, c'est vrai, il y a aussi... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a contribué à BigBlueButton, mais on a contribué aussi à Peertube. Et là, la boucle est un peu bouclée pour moi.
Peertube, explique ce que c'est que Peertube.
Peertube, un système... Alors, on dit que c'est une alternative à YouTube, parce que c'est une plateforme de partage de vidéos en ligne. Et ce qui est vrai, oui, bien sûr. C'est vraiment une problématique importante pour nous parce que déposer des vidéos à usage qui ont été faites dans un cadre scolaire sur YouTube, on imagine bien les problèmes que ça peut poser. Donc là, elles sont chez nous. Et là, on a, et on collabore avec Framasoft. Et ça, c'est très intéressant. Et on voit bien aussi que, du coup, les relations ont évolué entre l'Éducation nationale et Framasoft.
Parce que Peertube est développé par quelqu'un de Framasoft,
voilà,
avec du financement, de dons, etc.
Exactement. Pareil avec Nextcloud qui correspond à... Parce que l'idée, c'est aussi de... Donc, en fait, PeerTube, c'est une sorte d'alternative à YouTube. BigBlueButton, c'est une sorte d'alternative à Zoom, etc. Et on a Nextcloud aussi qui nous sert une sorte d'alternative à, je sais pas, Google Drive, Gdocs, etc.
Oui, qui offre beaucoup d'applications et dont on a parlé dans Libre à vous déjà. Et je renvoie donc sur libreavoue.org. Vous recherchez Nextcloud dans le moteur de recherche. On va faire une petite pause musicale. Alors, tu as aussi choisi cette pause musicale. Nous allons écouter Our Lives Change par Triad. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix est possible.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Our Lives Change par Triad, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte toujours sur le libre éducatif avec Alexis Kaufmann qui est chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Si vous souhaitez participer à notre conversation, vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46 ou vous pouvez venir sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alors, juste avant la pause musicale, on parlait d'un ministère qui n'est pas simplement utilisateur de logiciels libres, mais qui contribue aussi au logiciel libre. On avait pris l'exemple du logiciel de visioconférence BigBlueButton et de là, donc, de l'offre de classe virtuelle qui vient d'être annoncée par le ministère. Mais je suppose aussi qu'il y a d'autres choses. Peut-être, tu as parlé d'animation d'écosystème, peut-être de retour d'expérience de prof. Revenons à nouveau, sur du concret, sur ce qui s'est passé cette année, cette première année de poste, Alexis.
Oui, surtout que, la classe virtuelle, ce n'est pas du tout moi qui ai participé. Moi, je fais.
Mais c'est un très bon exemple, en tout cas, de ce qui se passe.
Voilà, mais en tout cas, c'est pour te montrer comment peut-être le ministère évolue. Évolue dans la bonne direction, en l'occurrence, selon moi. Pour ce qui est de l'animation de l'écosystème, là, je pense que. En plus, justement, j'avais cette expérience de Framasoft, je pense modestement avoir peut-être apporté quelque chose, parce que l'idée c'est que nous sommes 800 000, il y a 800 000 profs parmi ces 800 000 profs, non, et puis il y a bac plus tous plus ou moins bac plus 5, enfin,
sauf ceux qu'on recrute actuellement,
mais j'aurais pas,
t'aurais pas dû me dire
faute,
ça parce que là si tu me lances là-dessus actuellement c'est pas tout
c'est
à fait
ma
ça
faute,
malheureusement.
C'est ma faute. toujours est-il que il se passe, et ça je l'avais constaté moi dès mon arrivée à l'Éducation nationale et en travaillant aussi avec Framasoft, c'est que il se passe plein de choses, il y a des énergies, il y a des projets. Maintenant, par le passé, ils n'ont peut-être pas été assez repérés, accompagnés, soutenus, écoutés, valorisés. Voilà. Et puis peut-être regroupés dans quelque chose de cohérent avec des structures et des moyens qui vont aller avec moi. Donc, moi, j'ai fait une grande concertation, j'essaie d'avoir une cartographie la plus exhaustive possible de ce qui se passe en relation avec les académies, parce qu'il y a aussi plein de structures qui sont là, il y a des référents numériques, etc. Mais si tu veux, le fait de faire confiance aux enseignants et de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils créent et partagent ensemble, ça me paraît vraiment important. Et la valorisation, ça peut être simplement les identifier, les inviter à des événements, des choses. Typiquement, voilà, les choses nouvelles, si tu veux, c'est que on a subventionné des associations qui ne l'étaient pas par le passé pour la première fois. Ça fait une reconnaissance formelle. C'est pas des sommes faramineuses, mais c'est une amorce. Alors je sais pas si je veux,
si
il faut que je détaille, je peux le citer. Il y a VIMS, qui est une plateforme d'exercice mathématique libre qui existe depuis 25 ans. L'AUF, qui est une nouvelle association de professeurs de NSI, parce que les professeurs de NSI sont assez
numérique et sciences de l'informatique.
Ouais, sont assez figure de proue, parce que en informatique, le partage est quand même assez naturel, en tout cas au moins au stade de l'éducation et de l'université. Abulé du FR, ça, parce que c'est pas la première fois qu'ils sont soutenus, mais c'était.
Rappelle ce que c'est, par contre.
Abulé du, c'est une association historique de soutien et de la promotion du logiciel libre dans l'éducation. D'accord. En l'occurrence, ils proposent une alternative à Twitter qui s'appelle EduTweet, plutôt, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée. De suggérer aux élèves de participer à Twitter, donc sur EduTweet,
okay.
On a une plateforme qui est hébergée, qui est sécurisée. Primtux, une distribution Linux adaptée à l'école primaire. C'est une dérivée de Ubuntu, mais on a l'OS libre et on a tous les logiciels libres qui va avec, mais on a plein de ressources aussi pédagogiques libres qui sont dessus. Par exemple, j'ai compris qu'il y a une suite
éducative
qui peut être utilisée aussi bien à l'école. Moi, je suis papa d'un enfant de 6 ans et il a Primtux sur son ordinateur. Il est absolument ravi et la sélection d'activités sont tout à fait intéressantes, intelligentes. Il a découvert tout seul à jouer aux échecs. Enfin voilà, c'est tout à fait une suite et c'est une solution très intéressante qu'on essaye de déployer le plus possible dans les écoles primaires. C'est pas toujours facile parce que l'agenda des collectivités n'est pas forcément le même que le nôtre, etc. Valorisation collective, aussi valorisation individuelle. Alors, on a ce qu'on appelle, on peut avoir des IMP, c'est-à-dire des indemnités de mission particulière, un volandeur qu'on peut distribuer. Moi, j'ai vu par le passé des collègues un peu s'épuiser dans leur projet qui était. Voilà, donc c'est pas forcément des sommes énormes, mais c'est une première reconnaissance. Vous avez créé et partagé quelque chose d'intéressant. Vous êtes reconnu pour cela. Je peux te donner un exemple. Par exemple, en Corse, au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio, il y a deux collègues, Apollonia Raffaelli et Christelle Thierry, des professeurs d'informatique en BTS STO, SIO, Service Informatique aux Organisations, donc un BTS, qui propose une suite libre d'applications libres pour l'enseignement d'économie et gestion. C'est là encore, c'est une intégration d'un ensemble de PrestaShop, suite CRM, enfin des logiciels de gestion, éco, relations clients. Je ne suis pas un grand spécialiste de tout ça, mais elles ont intégré, elles font ça avec, en plus elles font ça avec avec leurs étudiants et leurs étudiants, et c'est assez impressionnant, et ça mérite d'être reconnu. J'ai aussi participé à l'organisation, j'étais venu en parler très très rapidement l'année dernière, de la journée éducatif à Lyon, avec qu'on a co-organisé avec l'Académie de Lyon. Voilà, c'était aussi l'occasion d'inviter tous ces porteurs de projets, enseignants, communautés d'enseignants, associations d'enseignants, à montrer ce qu'ils faisaient, à partager, à échanger. Ça c'était aussi quelque chose peut-être qui manquait, en plus avec la joie de se retrouver en présentiel. Je peux te donner aussi un autre exemple avec trois logiciels qui sont très différents, mais dont l'approche est un peu la même: Wikidia, Mindtest et Lichess. Alors, Wikidia, c'est, on va dire que c'est la Wikipédia pour le jeune public. En tout cas, ça repose sur le même moteur Wiki, mais donc c'est une encyclopédie qui est plus adaptée. Bon, il y a eu des projets d'édition de Wikipédia faits avec des élèves, mais aujourd'hui, c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, Wikipédia est très impressionnant. C'est 2 500 000 articles sur la Wikipédia francophone. Ils sont souvent très bien structurés. C'est quasiment des articles académiques. Donc, on a Wikidia qui a que 40 000 articles. Il y a plein de situations pédagogiques. On peut inviter professeurs, élèves à éditer dessus. Mindtest, c'est l'équivalent de l'alternative, le clone un peu libre de Minecraft. Mais ce qu'il y a, c'est que ce ne sont pas, c'est pas Minecraft a été racheté, je sais pas combien de milliards par Microsoft, donc c'est sur les serveurs américains. Et là, en plus, avec Mindtest, on peut avoir son propre serveur, on peut adapter à nos besoins, on peut le personnaliser. Et il y a des projets pédagogiques sur Mindtest, c'est-à-dire il y a un beau projet qui s'appelle Mindstory, où les élèves des classes vont choisir un élément du patrimoine à côté de leur établissement scolaire, je sais pas, une ruine gallo-romaine, une église, un beau bâtiment architectural, et vont l'étudier. La ville est ravie aussi de participer, parce que ça valorise son patrimoine. Ils l'étudient, et puis ils en font aussi leur article Wikidia en passant, et puis ils vont le modéliser en 3D dans un univers de type Minecraft, donc sur Mindtest. Et donc, évidemment, ça pose plein de compétences mathématico-architecturaux, etc. Et puis, évidemment, aussi histoire de l'art. Et puis ensuite, les différentes classes mettent tout ça en commun sur une même carte. Et donc, voilà, ils vont visiter virtuellement les monuments qui ont été créés. Ça, c'est un bel usage. Et Lichess, qu'est-ce que c'est? Lichess, c'est une plateforme d'échecs en ligne qui est complètement open, complètement ouverte, qui a été créée en France. D'ailleurs, c'est une belle réussite du numérique français, en fait. Et là aussi, on a des usages. Alors, si tu veux, pourquoi je te donne ces trois exemples? C'est que sur aussi bien Wikidia, Mindtest que Lichess, il y a des usages pédagogiques en classe, mais pas que. Et puis, quand les élèves se créent leur compte avec leur professeur pour un projet pour une année, Wikidia, Mindtest, ils peuvent le conserver, et puis ils peuvent continuer à éditer sur Wikipédia. Ils peuvent continuer à jouer dans les univers Mindtest, ou ils peuvent continuer évidemment à jouer aux échecs et à jouer aux échecs en ligne si de temps en temps ils veulent jouer avec des partenaires qui sont distants. Et c'est intéressant de valoriser ces projets, et c'est intéressant aussi de voir comment on peut soutenir le développement des logiciels libres qui sont derrière, donc Mindtest, Lichess et Wikidia. En ce moment, on est en train de discuter avec Lichess, justement, pour voir un petit peu comment on peut trouver un
partenariat. Les aider financièrement, en termes de ressources humaines, d'accord.
Financièrement. Ouais. Okay. Sur des dispositifs, par exemple, on a un beau dispositif qui s'appelle EduHub, et là aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs, des appels à projets qui sont assez classiques, où c'était souvent c'est réservé un peu au monde de l'entreprise, à l'EdTech, comme on dit. On a d'autres dispositifs qui sont plus souples, qui accueillent les associations. Donc, notamment EduHub, qui est un dispositif pour créer de la ressource, créer et partager de la ressource numérique éducative. Et là, parmi les derniers lauréats, il y a deux projets. Il y en a un qui est Polymni, qui vient de l'Université de Toulouse, qui n'est même pas une association, qui est une SCIC, une société coopérative d'intérêt
collectif.
Collectif, hein, c'est ça. et qui eux proposent en ligne un outil pour créer des capsules vidéo à partir de des capsules qu'on appelle nous ce qu'on appelle les capsules vidéo, c'est des capsules pédagogiques, c'est-à-dire on peut en fait tu vas je sais pas tu t'es mais je vous invite j'invite les auditeurs à le tester s'ils connaissent pas Polyni, c'est super pour créer des petites vidéos à partir d'un PDF. Vous avez un PDF qui va vous faire différentes diapos et puis vous pouvez incruster votre vous pouvez vous incruster en vidéo un peu où vous voulez parler avec un prompteur, donc ça donne des comme aujourd'hui le média vidéo courte est très utilisé.
Tout à fait. très courte même.
C'est vrai, de plus en plus courte. Et moi d'ailleurs, on me demande souvent, t'as pas une vidéo très courte pour faire ceci, pour cela. Voilà, donc c'est très intéressant de pouvoir en créer et sans, comment dire, avec une certaine facilité et avec une belle ergonomie. Donc Polymny, soutenu par le dispositif EduF, et aussi un autre projet qui que je trouve intéressant, qui est Je fabrique mon matériel pédagogique. Là, on est sur plutôt dans des Fab Labs où par exemple, les enseignants peuvent fabriquer en impression 3D. Là, je pense à, par exemple, le glisse-nombre. Qu'est-ce que c'est que le glisse-nombre? Le glisse-nombre, c'est pour enseigner la position des chiffres dans un nombre. Hein, on est à l'école primaire. Et le fichier numérique de ce glisse-nombre, il est ouvert, il est à disposition de tous. Chaque enseignant peut, s'il est à disposition... une impression 3D, mais c'est vrai que ça se démocratise dans les établissements scolaires. Puis il y a on a aussi des projets Fab Lab à l'école. Voilà, il prend le fichier, il est ouvert, il est libre, il est à disposition, et on imprime son glisse-nombre pour l'utiliser avec ses élèves. C'est aussi le partage de fichiers numériques qui donne ensuite des objets 3D, quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant.
Alors, le temps file très vite, Alexis. On est bientôt à la fin de l'échange. Tu as récemment envoyé un message, on va dire même un tweet sur un réseau social, disant « Le directeur du numérique éducatif, Audran Le Baron, ne s'en cache pas. Il a bien l'intention de développer le logiciel libre et les communs numériques dans un secteur où l'esprit de collaboration et de partage des savoirs est moteur. » Alors, une petite question, peut-être préciser ce qu'est un commun numérique, en tout cas dans l'esprit d'Audran Le Baron. Et la deuxième question, c'est quoi la stratégie qui va être mise en place pour atteindre ces objectifs? Est-ce qu'il y a déjà des choses concrètes? Est-ce que c'est une stratégie qui va être annoncée dans quelques temps? Voilà, concrètement, qu'est-ce qui va arriver?
Ce qui va arriver, c'est qu'on va publier notre stratégie numérique éducatif 2022-2027. Je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas encore finalisé. Mais c'est vrai que les communs numériques sans le dévoiler, ils feront partie des axes forts et regroupent et englobent d'ailleurs le libre éducatif.
Ouais.
Alors, dois-je redéfinir ce que c'est qu'un commun numérique?
Peut-être une phrase, parce que
oui. Alors,
c'est compliqué en une phrase.
Disons que c'est une ressource, on va dire que c'est une ressource produite et ou entretenue collectivement par une communauté et gouvernée par des règles, parce que c'est des mots qui sont importants, gouvernée par des règles qui lui assurent son caractère collectif et partagé. En fait, on a trois mots-clés, on a ressources, on a communauté et on a gouvernance. Et c'est intéressant parce qu'on se focalise plus sur la ressource, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la production de ressources. Là, c'est aussi, c'est quelle gouvernance partagée. Et ça oblige ça oblige. En tout cas, ça fait en sorte qu'on travaille en commun et qu'on prend soin de la ressource. Et aussi, c'est penser la ressource, comment dire. On ne réinvente pas la roue. C'est, quand on est sur un projet, c'est qu'est-ce qui existe déjà? Comment améliorer ce qui existe déjà? Et comment s'assurer aussi que ça va être pérenne? Donc, ça amène à penser format ouvert, interopérabilité, etc. Voilà. Après, si tu veux, Audran Le Baron, il a parlé des communs numériques. C'était sur un projet qui s'appelle Eléa, qui est un projet autour de Moodle.
Justement, parler de ça. Est-ce que tu peux parler de
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de l'expression qui a eu un certain écho. Il a dit, je rêve de créer la Wikipédia des
ressources pédagogiques libres.
Voilà, à cette occasion. Ce qui était symboliquement fort et aussi, qui était très intéressant dans l'image qu'a Wikipédia dans l'éducation. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, Wikipédia est devenu un objectif à atteindre. Donc, alors que ça, par le passé, ça peut être quelque chose qui était beaucoup plus effet repoussoir.
Et donc, Eléa, c'est quoi alors?
Eléa, en fait, c'est, c'est un projet basé sur Moodle. Donc Moodle, c'est un logiciel d'apprentissage en ligne, hein, pour le dire très très rapidement. Mais si tu veux, c'est Moodle est un logiciel libre. Sur ce logiciel libre, on va inviter professeurs, élèves à travailler, et les professeurs vont pouvoir aussi vont créer des parcours pour les élèves, et ces parcours vont pouvoir, ils vont pouvoir les partager entre eux. Et donc, ils vont créer de la ressource éducative parce que ces parcours seront partagés sous licence libre. Et donc, on invitera les enseignants à partager leurs parcours, à les améliorer ensemble, etc. Donc, on a un peu toute la chaîne. On repose sur un logiciel libre avec toutes les qualités qu'il a, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter, on peut contribuer au code, etc. C'est ouvert, c'est sur nos serveurs, etc. C'est aussi. Et puis, on incite professeurs et élèves à travailler dessus, à partager, à enrichir des parcours, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un bel exemple de commun numérique, parce que c'est envisagé aussi avec une bibliothèque où justement on va, parce que là, ça en manque, si tu veux. On a beaucoup de ressources numériques qui ont été créées mais on
sait pas où elles sont.
Exactement.
Voilà. C'est-à-dire qu'il faut
pour le dire très rapidement, on a du mal
à les relocaliser entre guillemets.
Voilà.
C'est-à-dire pour voir les. D'accord. En tout cas, bon, c'est des. Alors, je précise que Eléa, ça s'écrit E-L-E-A, hein, parce que sur le salon web, il y a des remarques par rapport à la terminologie. Mais on mettra toutes les références sur la page consacrée à l'émission, hein, sur libravou.org et sur causecommune.fm. Donc, si on a bien compris, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura l'annonce d'une stratégie du ministère de l'Éducation nationale 2022-2027, qui va donc annoncer les. Donc, pour l'instant, tu peux rien annoncer. Oh, on ne veut pas te poser plus de questions, mais on a cru comprendre que peut-être que les communs numériques.
Non, je ne sais pas que je ne veux rien annoncer, mais si tu veux, l'exemple que j'ai cité sur la classe virtuelle, le soin nouveau qu'on apporte à cet écosystème, parce que si tu veux, c'est dans l'ADN des. Les professeurs, ils partagent. Hein,
oui, mais, c'est leur ADN. Oui.
Mais inciter au partage, par contre, et valoriser ce partage, on ne l'a peut-être pas assez fait par le passé. Donc
Et l'accompagnement au partage.
Voilà. Et aussi leur faire confiance et s'intéresser à. Et les mettre dans les. Plutôt que leur apporter de la ressource qui vient d'en haut, si j'ai envie.
Tu veux dire que le ministère de l'Éducation nationale va s'intéresser aux profs? Non, je blague.
C'est perfide. Je ne répondrai pas à cette attaque perfide.
Je peux me permettre d'être un peu perfide. Donc, si j'ai bien compris, peut-être qu'Audran Le Baron. Bah, en tout cas, c'est une invitation publique que nous lançons à Audran Le Baron et puis à ses équipes, hein, de venir présenter cette stratégie, effectivement, car qui ne couvre pas évidemment que le numérique. Hein, c'est une stratégie globale école, si j'ai bien compris. D'ici.
Si, ce sera notre stratégie du numérique.
Numérique, éducatif. D'accord. Mais ça ne couvre pas que le logiciel libre. Il y a
non,
questionnement.
Bon,
évidemment,
sans aucun doute. Et le logiciel libre n'est pas l'alpha et l'oméga non plus.
Tout à fait. On arrive bientôt à la fin et à la toute dernière question. J'ai envie de te demander, bon, bah, toi, ça fait un an que tu es là. Et donc, tu as un contrat de, je suppose, de 3 ans. Donc, tu t'inscris dans la continuité. Est-ce que déjà, tu as des projets Alors, je précise effectivement que. Il y a les évolutions positives qu'on peut noter dans les ministères. Il y a aussi côté direction du interministériel du numérique, la DINUM, avec notamment Bastien Guéry et l'équipe des Blue Hats, c'est-à-dire les personnes qui s'intéressent et qui développent des logiciels libres dans l'administration. C'est vrai que c'est en parallèle et c'est à peu près à la même période. Donc on voit effectivement une dynamique.
Non, c'est très important. C'est-à-dire nous ne sommes pas seuls. Ouais. Il y a aussi un réseau suite au rapport Botorel et à la circulaire Carcass, on a un réseau d'AMDAC, d'administrateurs ministériels des algorithmes, des données, des codes sources. Dans l'enseignement supérieur, on a le plan national pour la science ouverte. On a aussi Henri Verdier, ambassadeur numérique, qui a poussé les communs là récemment. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Certains disent parfois, oui, les planètes sont alignées. Alors, moi, je suis prudent. Hein, et puis, le slogan de Pharmasoft, c'est la route est longue, mais la voie est libre.
Tu veux dire que Jupiter est avec nous, c'est ça?
Mais je te dirais que la séquence est quand même très favorable.
je finis avec la question perfide. Hein. Non, avant-dernière question, mais rapide, celle que je voulais te poser. Donc voilà, ça fait un an, il te reste encore du temps. Est-ce que dans l'année à venir, tu as déjà des idées de projets ou de choses sur lesquelles tu voudrais un peu plus appuyer, même si peut-être tu ne peux pas trop en parler parce que
c'est-à-dire que je pense que les communs numériques vont faire partie d'un des axes forts de notre stratégie et que je serai partie prenante. Voilà.
D'accord.
Voilà. On peut pas en dire plus exactement, mais ça c'est une chose. L'amorce là de soutien individuel, collectif, événementiel, etc., qui pour l'instant est très modeste en termes de moyens. J'espère, avec d'autres, l'amplifier. Parce que ça me semble vraiment important dans cette période où le contexte est quand même difficile pour l'éducation nationale aujourd'hui, on va le dire comme ça. Vraiment faire confiance aux enseignants et les mettre dans les bonnes conditions pour travailler ensemble, ça me semble vraiment très très important.
Alors, on nous signale sur le salon web que le logiciel libre est bien l'alpha et l'oméga, mais je vais te laisser.
Évidemment, c'est...
Évidemment, alors, en plus, ça commence à troller sur les jets privés sur le salon web. Voilà, on va quand même... Bon, en tout cas, c'est effectivement des choses très intéressantes. Et évidemment, dans un an, tu seras de nouveau notre invité, ou même avant, tu es invité permanent ici quand tu as envie d'intervenir et de nous faire un point d'étape. On arrive en fin de sujet principal. La question finale classique que l'on pose, pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette intervention en moins de 2 minutes, Alexis ?
En moins de 2 minutes. Disons que... Je trouve intéressant, moi j'estime, alors c'est peut-être un peu immodeste de dire comme ça, j'estime que je viens du... Parce que si on fait le partage public commun privé, moi j'estime que je venais un peu des communs avec Framasoft. C'est intéressant que le public accueille un peu des gens qui viennent des communs, voilà, et dans des structures institutionnelles. Moi, alors tu as parlé de la DINUM aussi, ça me semble... Et puis des gens qui viennent des communs acceptent d'y aller aussi. Hein. Ça me semble quelque chose d'important. Et si le plus en plus... de plus en plus nombreuses soient les institutions qui offrent ce genre de poste, ça me semble quelque chose d'intéressant. Donc, une première chose. La deuxième, l'état contributeur, c'est pas rien, parce que là, pour l'instant, nous, on est tout seul à contribuer à BigBlueButton. BigBlueButton est utilisé dans toute l'Europe. Moi, je suis allé en Espagne, je vois aussi en Allemagne. Donc, ils utilisent BigBlueButton dans leur système éducatif. Imagine qu'ils se mettent aussi à contribuer. Imagine que tous les pays européens se mettent à contribuer. Là, on va se retrouver vraiment, là, on aura des moyens et là, on va avoir des logiciels du feu de Dieu. Et Nextcloud va rattraper Google Drive, etc. Donc, c'est vraiment important cette question de contribution et ça me semble de l'argent public bien dépensé, tu vois. Deuxième idée. Troisième idée, c'est pas démago, mais c'est voilà, nos profs sont formidables, ils ont le partage, la création et le partage dans leur ADN, mais voilà, offrons-leur les meilleurs dispositifs qui soient pour qu'ils puissent travailler, échanger et partager ensemble. Et la quatrième idée, on a dépassé les 2 minutes, c'est
Vas-y.
Un discours, c'est un discours un peu d'optimisme, quoi. Voilà, le contexte est délicat, mais pour ce qui est moi, je suis vraiment très très agréablement surpris par ces un an au ministère et j'ai l'impression que plein de choses peuvent se faire peuvent se faire non pas le libre pour le libre, hein, mais pour le plus grand bénéfice des professeurs et surtout des élèves.
Ben écoute, merci. Je précise juste effectivement parce que je vois une réaction sur le salon web que dans l'intitulé de ton poste il est question de mixité, mais on a choisi de ne pas en parler pour en parler ultérieurement sur un sujet dédié et laisser le temps nécessaire à cette partie-là pour pas juste la traiter en 1 minute parce que ça mérite beaucoup plus. Et je renvoie évidemment à toutes les émissions qu'on a fait déjà sur ce sujet en général sur la diversité dans l'informatique et on va en reparler très prochainement. Écoute, merci Alexis. Donc c'était Alexis Kaufmann, donc qui est professeur de mathématiques, fondateur de Framasoft et actuellement chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Belle journée Alexis.
Merci, à bientôt.